France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Quelques mois après l'apparition du deuxième volume de son autobiographie dessinée, Les Idolâtres, chez Dargaud, Johann Svarr publie Nous vivrons, enquête sur l'avenir des Juifs aux éditions Les Arènes BD sur plus de 400 pages. L'auteur et dessinateur de BD, qui est également cinéaste, musicien aussi, qui a toujours milité pour la paix au Proche-Orient, s'interroge sur le massacre du 7 octobre, ses conséquences en France, la montée de l'antisémitisme. Il se rend aussi en Israël, donne la parole à des dizaines de personnages, un livre de portraits polyphonique, écrit dans l'urgence, qui mêle l'insoutenable, l'angoisse, mais aussi l'humour, l'absurde et la musique. Bonjour Johann Svarr.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci d'être avec nous. Chaque jour dans cette émission, on reçoit des musiciens, mais aussi des artistes pour des projets, des livres, des spectacles en lien avec la musique. Votre venue il y a quelques semaines pour l'apparition de ce deuxième volume a été décalée pour des raisons de santé. Vous allez mieux, une mauvaise chute. Aujourd'hui paraît ce livre beaucoup plus grave sur un sujet qui nous concerne tous, que je vous propose ce matin jusqu'à 9h d'aborder avec un fil musical. Ce massacre du 7 octobre a d'ailleurs été commis lors d'un festival de musique. Ce matin, vous portez autour du cou un mot que vous évoquez dans le livre. Que signifie-t-il ?
Chai, ce sont deux lettres hébraïques qui évoquent la vie. Le slogan du peuple juif, Am Israël Chai, Israël survivra en tant que peuple. Cette envie de survivre au Proche-Orient comme ici m'a amené depuis 1990 à m'impliquer dans des discussions de paix avec des Palestiniens, vouloir la paix au Proche-Orient, vouloir la paix pour les Juifs comme voie de la polyphonie européenne. Et tout ça est battu en brèche depuis le 7 octobre et on est dans un enchaînement d'événements qui semble n'amener que du malheur. J'ai essayé de faire parler les intéressés, j'ai essayé de faire parler des Juifs, j'ai essayé de faire parler des Israéliens, j'ai parlé aux amis palestiniens que je connais qui parfois n'ont pas demandé à être cités dans le livre parce qu'ils ont dit quoi qu'on dise en ce moment, on a des problèmes. Et ce livre est un travail, d'enquête sur cette période un peu bizarre.
Qui s'inscrit dans cette série des carnets que vous menez depuis 20 ans, qui mêle à la fois votre quotidien, des réflexions ?
Non, c'est une nouvelle forme de bande dessinée pour moi. Mes carnets, je les fais au jour le jour. Ça, c'est un ouvrage que j'ai fait volontairement aux Arènes, qui est un éditeur de sciences humaines. On a bénéficié du regard d'historien et de journaliste. Et ça n'a que l'apparence du premier jet. Ça a été énormément réécrit. On a enlevé 150 pages. On a structuré. J'ai envie de proposer... Je suis un grand admirateur de Stefan Zweig d'un côté et de Joseph Kessel de l'autre. Et j'ai voulu montrer... l'angoisse européenne et, j'allais dire, l'aventure tragique du Proche-Orient. Mon maître Clément Rosset disait, dès qu'on approfondit, on quitte le réel. J'ai pas voulu faire de théorie, j'ai voulu faire parler des individus, avoir le temps et les laisser dire, je suis perdu, j'ai du chagrin, je sais pas ce qui va se passer dans un mois. C'est cet égarement que j'ai voulu retranscrire dans le livre.
Nous vivrons et le livre commence avec ça.
To our prosperity, to good health and happiness, and most important, to life, l'chaim, 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 to life. Is to the father of tried to be,
is to my bride to be.
Bring l'chaim to life, l'chaim, 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 to life. Life has a way of confusing us,
blessing and bruising us.
Bring the chaim to life. God would like us to be joyful, even when our hearts lie panting on the floor.
How much more can we be joyful when there's really something to be joyful for?
To life, the chaim. To title my daughter,
my wife. Gives you something to think about.
Something to drink about.
Drink the chaim to life.
Montre.
Les Rhyme to Life, extrait de la bande originale d'Un violon sur le toit, film de Norman Jewison, et cette musique à la fois signée Jerry Bock, John Williams. Qu'est-ce que ça vous évoque, Johann Svarr, cette chanson ?
Moi, j'aime les œuvres populaires. Le violon sur le toit, c'est fondateur pour moi. Et c'est l'histoire de Thévier le laitier qui s'intéresse aux traditions au moment où tout va changer. Au moment où les Juifs d'Europe de l'Est vont devoir quitter leur pays à cause des pogroms. Au moment où il ne sait pas où vont aller ses enfants. Et ça sonne malheureusement beaucoup avec qu'aujourd'hui, parce que les deux fictions, les deux mythes sur lesquels tiennent les Juifs, même s'ils ne sont juifs que culturellement, le premier, c'est la sécurité laïque et républicaine qu'on a en France. Mon grand-père disait, on fuyait pas seulement les pogroms, on fuyait aussi nos rabbins. Et cette sécurité en France, elle a volé en éclats, puisque après le 7 octobre, il y a eu 1000% d'augmentation d'actes anti-juifs, avant même le début de la riposte israélienne. Ça a changé la vie des Juifs en France. Et en Israël, bien entendu, on se disait toujours, s'il y a du danger, on ira en Israël où on sera en sécurité. Et on voit bien qu'Israël est à portée de bombe de l'Iran qui est sur le point de se doter de la bombe nucléaire. Et on voit bien la guerre que mène actuellement Netanyahou, dont personne ne sait où elle mène et qui me semble être une tragédie à tous les niveaux. Voilà, donc tous les mythes qui nous permettaient de respirer ont volé en éclats. Et je ne sais pas où exister aujourd'hui, moi.
Le livre part de ce 7 octobre 2023 où le soir avec des amis juifs et arabes, vous fêtez votre anniversaire un peu en décalé parce que votre anniversaire c'est l'été et qu'il n'y a personne. Il y a aussi ces souvenirs personnels qui sont liés à des moments importants de l'histoire, que ce soit qu'est-ce qu'on faisait le 11 septembre 2001, qu'est-ce que vous faisiez, ça c'est dans l'autre livre, le jour de la mort de Gainsbourg. Vous, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ce 7 octobre?
On fêtait mon anniversaire et il y avait une centaine d'amis et effectivement on était tous hantés par les souvenirs joyeux de nos ancêtres dans le Maghreb. Moi, tout mon travail depuis 30 ans, c'est de montrer des Juifs qui ont l'air arabes, c'est de réenchanter notre imaginaire maghrébin, et je crois que la France a la chance d'être un lieu en paix avec la plus grande communauté musulmane, la plus grande communauté juive en Europe, et on peut inventer de nouvelles histoires depuis la France pour l'avenir. Malheureusement, c'est pas ce que j'entends actuellement.
Vous avez tout de suite continué à écrire, à dessiner. Vous avez... La sidération ne vous a pas bloqué?
Alors, c'est l'inverse. J'ai arrêté tous mes livres et j'ai commencé à faire des dessins pour essayer de donner une voix à l'angoisse que j'entendais chez les Juifs de France, qui tout d'un coup se sont sentis en danger, les mères juives qui pressent le pas en sortant de l'école, les étudiants qui ne vont plus en fac ou qui, s'ils y vont, ont le ventre tordu parce qu'on va les prendre à partie sur le Proche-Orient en permanence. Je crois que les gens ne mesurent pas le cauchemar que vivent leurs concitoyens juifs depuis le 7 octobre. Et je répète, depuis bien avant la riposte israélienne. Et cette manifestation, le 9 octobre, en soutien aux victimes du Hamas, sur le Trocadéro, où on était 10 000 personnes et il y avait 9 990 juifs. Et sur notre passage, les gens quittaient leurs balcons et fermaient les fenêtres. Ce bruit des fenêtres qui se ferment, je crois que je l'entendrai jusqu'à ma tombe.
Retirer la mezouza sur sa porte, changer son nom dans les applis VTC et livraison, enlever son nom de la boîte aux lettres s'il sonne juif, ne pas dire fort le prénom des enfants au jardin s'il sonne juif, etc. C'est sur toute une page dans ce livre. Invivable, le mot me revient plusieurs fois. La France est devenue invivable pour les juifs, pour vous?
Elle est invivable pour vous? J'espère que non. J'ai vu une vieille dame très inquiète il y a 2-3 jours et j'ai voulu la rassurer. Je lui ai dit, rassurez-vous, ce n'est qu'une période. Et elle m'a dit, tu te trompes, ce n'est que le début. Je n'en sais rien. Moi, je fais le portrait de mon époque. Je raconte ce que je vois, je raconte le quotidien de mes concitoyens. Et il ne m'appartient pas de dire où on va.
Est-ce que dessiner et écrire vous aide? Est-ce qu'il y a une dimension de thérapie, de consolation ou pas du tout?
Si, au-delà de ça, on vit dans un monde de fake news et de hurlements généralisés. Je pense que plus que jamais, le travail de journaliste et le travail d'historien vont maintenir la conversation collective, et j'essaye de mettre mon travail de dessinateur, j'allais dire de dessinateur à la Tintin, à la RG, au service des journalistes et des historiens. Donc je me prends pas pour eux, mais Nous vivrons, ça me fait du bien dans le sens où ça m'aide à comprendre ou essayer de comprendre ce qui se passe et laisser un outil pour quiconque voudra analyser ces 3 ou 4 mois de folie après le 7 octobre.
Et le travail d'un artiste, même d'un musicien?
Oui, ça c'est vraiment vital. Ça c'est le battement de cœur du monde, la musique. C'est ce qui peut nous rassembler, c'est ce qui peut agir sur nos certitudes. Moi, le Hicham Souleymane, qui est un grand comédien palestinien, sa manière de faire comprendre que la Palestine existe, c'est faire entendre la musique palestinienne en disant cette musique n'est pas égyptienne, elle n'est pas libanaise, elle est palestinienne. Et il me semble qu'un peuple existe par sa voix collective. Et malheureusement, aujourd'hui, les artistes et les voix de la paix ne sont pas entendus parce que avec le bruit des canons, avec la peur de la disparition de part et d'autre, ça ne peut pas s'entendre. Mais les voix de la paix sont encore là, elles sont juste inaudibles.
Dans Les Idolâtres, vous évoquez, vous l'avez déjà cité, votre maître Clément Rosset, philosophe. Ben le voici, justement, il parle de Schopenhauer.
J'avais lu avec extase les pages de Schopenhauer consacrées à la libération du vouloir vivre par l'art. Schopenhauer décrit l'homme qui assiste un spectacle esthétique, à écoute, musique, voix, une pièce, enfin n'importe quoi, comme éprouvant une jouissance très particulière, qui est une jouissance entièrement négative, donc pas assez beau, mais tiens, je ne souffre plus. Parce que d'agissant, d'acteur du désir et des souffrances entraînées par le désir, je suis spectateur du désir, et donc plus acteur du désir. Et brusquement, l'espace de la grâce, de la contemplation, puisqu'il appelle cela la contemplation, l'espace de la contemplation esthétique, je suis brusquement en dehors de la tempête, et dans un lieu d'un calme absolu dont je ne pouvais pas me douter que j'étais à deux pas. Il suffisait de franchir une porte, il suffisait d'aller regarder un Velázquez ou de lire un roman de Balzac pour, miraculeusement, être à l'abri de tout.
Qu'est-ce que vous inspirez, Clément Rosset ?
C'est une question essentielle, c'est la question du monde de la représentation. C'est, est-ce que quand on se met dans le monde de la représentation, on est hors du monde ou est-ce qu'on est dedans ? Moi, j'essaye d'y répondre avec le dessin d'après nature, avec ce dessin dans Nous vivrons qui est un dessin collé au réel. Ma méthode, c'est que je me mets face à mes interlocuteurs, je pose aucune question, je les dessine, ils se mettent à parler, je n'enregistre rien, je prends des notes et donc j'essaie de résoudre cette question. Est-ce que c'est hors du monde ? Est-ce que le moment d'abandon de l'art c'est une fuite ou est-ce qu'au contraire c'est une manière de s'immerger encore plus? J'ai pas la réponse, mais c'est là-dessus que je travaille.
Écoutez Mozart par exemple, c'est hors du monde.
Ça m'irait.
C'est la reprise, c'est le début de la 14e sonate de Mozart, l'une de ses plus tragiques en ut mineur, choix d'une tonalité très tragique ici sous les doigts de Daniel Barenboim, Johann Sfar. Vous avez choisi cette musique, cette sonate-là, pour quelle raison ?
Parce que ma femme la joue, parce que ma femme est pianiste, elle joue beaucoup, elle joue à la maison, donc j'ai beaucoup ça dans l'oreille. Moi j'y connais rien en musique classique, mais j'en entends beaucoup par la faute de ma femme.
C'est moi qui ai choisi Daniel Barenboim, qui joue, qui a créé le West Eastern Divan Orchestra, cet orchestre composé de musiciens israéliens et arabes, qui a connu lui aussi des tensions depuis 6 mois, mais qui continue malgré la santé fragile de ce chef. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un groupe de musique comme celui-ci ?
C'est essentiel. C'est une chose dont j'ai beaucoup parlé dans le livre, c'est ce petit lieu à Jaffa qui s'appelle le Théâtre Juif Arabe, qui rassemble des metteurs en scène et des comédiens des deux communautés et qui continue courageusement à jouer. C'est un théâtre qui est plein en ce moment. Je crois qu'il y a une volonté de part et d'autre d'éviter le massacre, d'avoir un avenir commun, de survivre. Malheureusement, elle est inaudible en moment de guerre, mais ce sont des choses vitales. C'est à ça que je m'accroche.
Vous utilisez à plusieurs reprises un terme musical, polyphonie au sujet de ce livre, comment il faut l'entendre ?
C'est très important, c'est le refus de résoudre, c'est le fait d'accepter les incohérences de chacun, le fait d'accepter en plus au Proche-Orient qu'une même personne puisse dire 3 choses en une demi-heure et que Le but, c'est pas de les mettre d'accord. Le but, c'est que les gens survivent, qu'ils arrivent chacun à se sentir en sécurité, à avoir leur avenir. Mais tenter de tout résoudre intellectuellement, c'est souvent pousser au massacre, selon moi.
D'ailleurs, le judaïsme fait partie aussi, dites-vous, de la polyphonie européenne, vous reprenez le mot là.
Oui, il me semble que le judaïsme, c'est aussi un courant de pensée, c'est aussi c'est une pensée qui est tout à la fois proche-orientale et européenne, et on des voix juives dans la conversation. Politiquement, ça me paraît important, puisque traditionnellement, de par leur histoire, les juifs sont toujours dans le camp des minorités opprimées. C'est pourquoi la situation du Proche-Orient est déchirante, en tout cas pour moi. Et ces voix disparaissent en Europe, parce que l'inquiétude fait que je n'entends pas beaucoup de jeunes intellectuels juif en France. J'ai dit comme une boutade, quand j'étais petit, un intellectuel juif, c'était de gauche et c'était radical. Aujourd'hui, c'est un vieux de droite. Moi, je deviens vieux, j'essaie de pas devenir de droite. Mais c'est une vraie question, la manière d'ancrer son imaginaire en Europe et d'imaginer son futur en Europe.
Pourquoi vous êtes parti en Israël? C'était en décembre, à ce moment de Hanouka.
Parce que j'avais besoin de réel. Parce que c'était pas un voyage organisé, j'y suis allé tout seul. J'ai là-bas toute ma famille paternelle à Jérusalem, et de l'autre côté, tous mes collaborateurs, puisque je produis de la télévision en Israël. Et c'était l'occasion de voir des êtres humains, de les interroger sur ce qu'ils vivaient, d'aller dans des villes bombardées, d'aller dans des kibbutz meurtris. Alors évidemment, tout le monde me demande pourquoi tu n'es pas entré à Gaza. Pour deux raisons. La première, c'est que c'était totalement interdit. Deuxième, c'est que quand des journalistes israéliens et américains ont pu entrer dans Gaza, c'était organisé par l'armée israélienne. Et moi, je souhaite me débrouiller tout seul. Je ne veux pas qu'on me guide quelque part. Je suis revenu d'Israël avec, je ne dirais pas de l'espoir, mais avec de l'énergie, parce que j'ai vu là-bas des gens qui sont résolus un jour à survivre paisiblement et qui ont actuellement le nez dans une tragédie qu'ils ne parviennent pas à penser.
Vous avez choisi Mozart et nous, on a choisi lui.
Abraham a eu deux enfants, Ismaël, Israël. Ils s'aimaient, voilà 5000 ans, d'un amour fraternel. Ils cherchaient du fond de leur âme à servir l'Éternel. Le premier fit naître l'islam, le second Israël. Le grand pardon, il est écrit depuis longtemps, depuis la nuit des temps. Le grand pardon, dépêchez-vous, dépêchons-nous de le faire entre nous. Attachés par les liens du sang, ils étaient tous unis. Ils rêvaient de voir leurs enfants vivre au même pays. Le grand pardon, dépêchez-vous, dépêchons-nous de le faire entre nous. Et le temps de tuer l'amour, ils se sont retrouvés face à face au lever du jour, prêts à tout sacrifier. Quand chacun a sa vérité et la même maison, l'avenir peut être sauvé sans larmes ni patience. Le grand pardon, il est écrit depuis longtemps, depuis la nuit des temps. Le grand pardon, dépêchez-vous, dépêchons-nous de les faire entre nous. Il faudra que revienne un jour au silence des armes les deux frères unis pour toujours par l'amour d'Abraham. C'est alors qu'on verra couler l'eau, le lait, le miel, qu'ils auront à se partager les enfants d'Ismaël, les enfants d'Israël.
Enrico Macias sur France Musique à 8h49. Le Grand Pardon, Joanne Sfar, Nos Vivrons, enquête sur l'avenir des Juifs. Ça vient de paraître il y a quelques jours aux Arènes BD, que vous évoque cette chanson de votre ami Enrico Macias.
Je crois qu'on se rappelle pas, parce que l'Algérie est omniprésente chez moi, et je dois dire, en France, dès qu'on pense même au Proche-Orient, c'est l'Algérie. On doit tellement à Enrico Macias. C'est le premier qui a fait entendre du Mahalouf constantinois sur les ondes françaises. C'est le premier qui a mis des musiciens musulmans à grande écoute. C'est celui qui est allé voir Anwar El Sadat au moment des accords de Camp David. C'est un avocat du dialogue depuis toujours. Et c'est un type qui représente beaucoup de choses. À ses concerts, c'est extraordinaire parce que toutes les communautés sont réunies. Tout le monde connaît les chansons par cœur. Et à force d'être dans la chanson populaire, d'être une vedette, d'être ça, il a charrié avec lui quelque chose de très réel et qui réenchante les souvenirs maghrébins. C'est quelqu'un que j'aime énormément et je suis ravi de dessiner sur scène avec lui à l'Olympia dans quelques jours.
18 et 19 mai pour concert anniversaire à l'Olympia. Vous évoquez dans le livre la fraternité entre les populations maghrébines qui continue.
Parce que j'y suis très attaché, parce que après le massacre du 7 octobre, les premières personnes qui m'ont appelé sont des amis musulmans et des amis iraniens, sans évoquer forcément les divergences qu'on peut avoir sur le sujet du Proche-Orient, mais juste par affection mutuelle. Quand je suis arrivé à Paris en 1991, il y avait des rencontres organisées entre des Palestiniens et des Israéliens. C'était évidemment organisé par des élèves d'origine maghrébine, qu'ils soient musulmans ou juifs, et c'était un lieu de débat, de conflit, mais autour de la même table. Ce dialogue, pour moi, il perdure. Mais il perdure si on se débarrasse des slogans et des postures imbéciles et qu'on accepte de déjeuner autour d'une table avec un ami et d'être prêt parfois à changer d'avis sur certains aspects de son discours.
Mais ce qu'on fait, là, depuis 8h30, votre discours, notre conversation, est-ce qu'elle est audible par certains qui nous écoutent ?
J'en sais rien. Moi, si je me préoccupais de ce qu'on pense de moi, j'écrirais plus un mot. Heureusement, comme je sais qu'on est inutile, je m'auto-censure pas. Je suis un avocat de la paix depuis toujours. Yasser Arafat disait la paix des braves. La paix, ça se fait pas avec ses amis. La paix, ça se fait avec les gens qui pensent pas comme vous. Donc, si on n'est pas capable d'approfondir un dialogue face à la personne qui pense pas comme vous, alors on coupe la radio, on coupe les journaux, on lit plus rien et on va crier.
Et puis en même temps, autre philosophe, Lévinas, que vous semblez faire face à son semblable, c'est courir le risque de bien l'aimer.
Oui, je fais le rapport entre les insultes que je reçois sur Internet nuit et jour, je dois dire malheureusement des deux camps, et la gentillesse des gens dans la vraie vie. Parce que détester son prochain les yeux dans les yeux, c'est tout de même assez difficile. Et je crois que je suis un gars assez souriant, et je crois pas qu'il y ait beaucoup de méchants sur cette planète. Il y en a, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et quand je rencontre des gens, même parfois très énervés, je constate qu'au bout de quelques phrases, la haine n'est plus tellement là, en tout cas je l'espère.
Il y a une exposition en ce moment au musée de l'histoire et d'art du judaïsme, encore pour 15 jours à Paris, protégé comme un porte-avions, vous dites dans le livre. Quel regard vous portez sur cette expo ?
J'adore ce musée parce que c'est le musée d'une voix laïque et culturelle juive dans la conversation européenne. Ensuite, ce qui me préoccupe, c'est un secret de Polichinelle, Nous Vivrons devait être dans une autre maison d'édition qui m'a dit « Nous en tirerons très peu parce qu'une lettre hébraïque sur la couverture, c'est clivant et le public est contre ça. » Donc si le public est contre l'idée d'une voix juive aujourd'hui en France, ça c'est préoccupant. Heureusement, le livre marche très bien, heureusement l'expo marche très bien et je crois que la haine est beaucoup moins forte qu'on se le raconte, en tout cas dans la majorité silencieuse.
Pourquoi depuis 20 ans, depuis le chat du rabbin, vous recherchez sur le judaïsme ? Pourquoi vous en parlez tout le temps ? Pourquoi vous vous interrogez ?
Parce que c'est pas réglé chez moi, parce que mon judaïsme, c'est pas celui de mon père, c'est pas celui de mon grand-père. Si c'est pas pour partager mon identité avec tout le monde, ça m'intéresse pas. Moi, justement, en revenant d'Israël, je mesure à quel point le monde laïque et républicain qu'ils n'ont pas, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et Israël, c'est tellement pluriculturel, pluriethnique, il y a 2,5 millions de musulmans, il y a 70% de juifs orientaux, les autres sont des juifs d'Europe de l'Est. Tout le monde est ancré sur son identité religieuse et ethnique. Je rêve que la France tombe pas là-dedans. Et parce que moi, je respire en France, parce qu'on est, en tout cas, on n'était pas trop écrasé par nos identités. Malheureusement, j'ai l'impression que ça change.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Notre invité est Joanne Sfar, Nous Vivrons, enquête sur l'avenir des Juifs, les Arènes BD, cette exposition encore au musée d'art et d'histoire du judaïsme pendant 15 jours, et puis Les Idolâtres, deuxième volume de cette autobiographie dessinée. On va se quitter avec quelques musiques qu'on a choisies, que vous avez choisies, vous allez nous dire en quelques mots à chaque fois ce qu'elle vous évoque. Première musique.
Alors, moi j'ai un gros chien, mais ça ma femme le joue nuit et jour. Donc quand je vais dessiner, j'ai ça dans les oreilles. Elle le joue pas mieux que ça, mais c'est ma femme qui joue, alors c'est très attachant.
La valse du petit chien de Frédéric Chopin. Mais vous êtes, vous, on n'a pas encore dit,
un
vous
petit
êtes
chien.
Musicien.
Non, je suis un musicien catastrophique. Je prends ma première leçon de guitare depuis 15 ans et je joue du ukulélé pour me calmer entre mes dessins. Non, je joue très mal, mais ça me donne envie de dessiner des musiciens. Donc je suis très amoureux des musiciens. Dès que j'en vois un, je le griffonne et ça me rend heureux.
Et d'ailleurs, vous êtes dans la filiation du plus grand peintre des musiciens, c'est Chagall.
Je ne sais pas si c'est Chagall, mais moi, mon maître, c'est Sempé aussi. Et Sempé disait, c'est parce que je ne joue pas bien de piano que j'adore dessiner des pianistes.
Et d'ailleurs, dans Les Idolâtres, on apprend que... Il y a des scènes avec Sempé, il faut lire le livre pour savoir ce que vous avez fait avec lui. Deuxième musique.
Et si Dieu était juif, ça t'inquiéterait, petite? Sais-tu que le Nazaréen n'a fait rien, n'en a rien?
Qu'est-ce que ça vous inspire cette chanson?
Moi j'adore cette provo. J'adore Gainsbourg qui rappelle en quelques lignes qu'on passe notre vie à reprocher aux juifs d'être ou trop marxistes, ou trop capitalistes, ou trop ethniques, ou trop blancs. Donc le juif est toujours là où on veut pas qu'il soit, mais l'important c'est de continuer à le haïr.
Allez, autre musique, autre chanson.
J'ai vu partout des choses bien extraordinaires, des choses qui vous font monter le sang dans les artères. J'ai vu le premier métro et le Trocadéro. Avec Ali, j'ai vu les courses de taureaux. Que je vous dis là, c'est pour montrer que je suis pas neuve.
Bon, ça c'est ma mère. J'écoute jamais ses disques au point que j'ai même pas reconnu sa voix. C'est ma mère faisait des disques, elle est morte avant que j'ai 4 ans et c'est le sujet du livre Les Idolâtres.
Et c'est une chanson que vous écoutez jamais.
Non, j'écoute jamais.
Vous m'en voulez pas.
Non, je vous en veux pas du tout, mais je suis pas capable de l'écouter pour des raisons évidentes.
Alors, on va écouter ça pour se quitter.
Shall we dance or keep on moping? Shall we dance and walk on air? Shall we give in to despair? Or shall we dance with never a care?
C'est très beau, Shall We Dance. C'est Mi Hachem, une des otages du Hamas, s'est tatouée We Shall Dance Again, nous danserons encore. J'avoue que j'ai une certaine colère contre la manière dont depuis la France, les gens ont commenté ou vu les massacres du 7 octobre. Et en particulier, beaucoup d'imbéciles m'ont dit, mais pourquoi allait-il danser aussi près de Gaza? Ce sont manifestement des gens qui ne savent pas qu'Israël fait 14 km de large par endroit et que c'est un pays minuscule où on est toujours très près les uns des autres.
Nous danserons encore les Chaim, Johan Soar.
Nous danserons encore les Chaim. Je souhaite le bonheur de tout le monde, je souhaite la survie de tout le monde et la musique, ça aide.
If you want this old world astray, put on your dancing shoes, stop wasting time.
Nous vivrons Enquête sur l'avenir des Juifs, Johan Soar, aux Arènes BD et chez Dargaud, Les Idolâtres. Allez au musée d'art et d'histoire du judaïsme. L'exposition, c'est encore pour 15 jours pour voir cette vie sino-héroïque, en tout cas graphique. Merci beaucoup.
Merci.
D'être venu sur France Musique. Merci à Emmanuel Morse-Duncan, YouTube Diego Aclopes, Flora Sternadel, Julia Macarès, Juliette Porcher et Yacine Bouzard. Notre voix mystère, il y a une heure, c'était...
Saint-Gor m'a appris une chose, il m'a appris... L'Afrique, la grandeur de l'Afrique, la noblesse culturelle de l'Afrique.
Et c'était la voix d'Aimé Césaire. Bravo à nos gagnants. Bonjour, Ronald Bruno Boulmier. Rebonjour, Émilie Minière.
Bonjour, Jean-Baptiste. On a décidé que c'était une grande journée aujourd'hui. Donc, on va écouter la 9e symphonie de Beethoven. Et c'est assez rare, finalement, dans cette émission.
Qu'on célébrera d'ailleurs la semaine prochaine, le 7 mai.
Eh bien, on est en avance, comme toujours.
Comme d'hab. Jamais comme tous les autres. Allez, tout de suite.
À réécouter sur francemusique.fr.